On fête donc les 10 ans de la plus récente loi sur les appellations réservées et les termes valorisants. Mais une première loi, plus sommaire, avait été votée il y a 20 ans. J'ai fait un tour d'horizon avec celle qui préside aux destinées du CARTV.
Anne-Marie Granger-Godbout, présidente directrice générale du Conseil des appellations réservées et des termes valorisants.
Aujourd'hui, vous soulignez un anniversaire, le 10e anniversaire du Conseil des appellations réservées et des termes valorisants.
Exact. Le 10e anniversaire de la loi qui a créé le Conseil.
Bien sûr, il y a quand même un bon moment qu'on parle d'appellations réservées au Québec. Le travail s'est articulé de façon différente ces dernières années.
En fait, pour être plus juste, il faut quand même se souvenir que la première loi sur les appellations remonte à il y a 20 ans. Alors, il y a vraiment eu une première période de 10 ans. Et avec la nouvelle loi qui était beaucoup mieux articulée, beaucoup plus étoffée, là, on est en mesure d'aller pas mal plus loin dans l'encadrement des projets d'appellation réservée.
Et vous avez dit tout à l'heure que maintenant, la loi a des dents. On peut intervenir, on peut corriger le tir lorsqu'il y a des violations, entre parenthèses, des appellations. Mais il n'y a pas que ce volet-là punitif, pourrait-on dire. Il y a tout l'espoir que ça donne de voir des appellations être reconnues.
Bien, en fait, c'est tout l'espoir que les appellations soient vraiment protégées, qu'il y ait une surveillance vigilante et qu'il y ait donc de vrais incitatifs à respecter les conditions d'utilisation d'une appellation réservée. Donc, pour éviter l'usurpation et, à ce moment-là, bien protéger le consommateur dans ses choix.
Et c'est pour ça qu'on a instauré un système de consultation plus élaboré avec la nouvelle loi.
En effet, le nouveau processus prévoit une consultation publique.
Où est-ce qu'on en est rendu, là? On a combien d'appellations au Québec? Un survol rapide. On est rendu à combien d'appellations?
On a 5 appellations qui sont reconnues actuellement. Donc, l'appellation biologique depuis 2000, l'appellation agneau de Charlevoix depuis 2009, les indications géographiques protégées cidre de glace du Québec et vin de glace du Québec depuis 2014, et le fromage de vache de race canadienne, donc tout récemment depuis le mois de mars 2016.
Et plusieurs dossiers sont en cheminement actuellement.
On a fait la recommandation pour le maïs sucré de Neuville, une indication géographique protégée. Alors, en principe, le processus d'analyse de la demande du groupe de producteurs est complété. Il y a eu une consultation publique, il y a eu des ajustements, et là, on est arrivé à une recommandation. Alors, on est vraiment dans le dernier sprint dans ce cas-là. Et on a aussi des projets qui cheminent. Un projet pour le cheddar de l'île aux grues, un projet pour un terme valorisant pour le fromage fermier et un projet d'indication géographique protégée pour les vins du Québec.
Et à travers tout ça, bien, vous avez établi des collaborations avec les années et encore tout récemment, par exemple, 2 collaborations avec l'Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec et avec l'INAO en France. Ces collaborations, elles vous permettent quoi?
En fait, avec l'ITHQ, c'est depuis 2014. L'objectif de cette collaboration-là, c'est d'arriver à sensibiliser. On comprend que c'est une institution de formation. Formation, donc, des gens qui vont travailler au niveau de la restauration, notamment, donc, des chefs. Alors, les sensibiliser et, dans le fond, les encourager à utiliser les produits du Québec et à les connaître et à les maîtriser et à en devenir des ambassadeurs. Alors, ça, c'était un volet avec l'ITHQ. Pour l'INAO, l'Institut national de l'origine et de la qualité en France, c'est d'arriver à partager des expériences, de l'expertise, de la collaboration dans, par exemple, l'analyse d'une demande, dans l'ajustement d'un cahier de charge, dans l'évaluation de la pertinence d'un plan de contrôle. Ils ont de l'expertise, ils ont de l'expérience dont on pourrait bénéficier. Évidemment, l'idée, c'est pas de reproduire tel quel ce qu'ils ont, eux, mais plutôt de s'en inspirer et de voir ce qui nous convient à nos besoins.
Et en terminant, Mme Granger-Godbout, plusieurs groupes, plusieurs personnes même vous disent régulièrement qu'ils ont une possibilité d'appellation avec leurs produits, au singulier ou au pluriel. Mais il y a toutes sortes de dossiers qui sont en préparation et vous incitez les gens justement à aller monter ces dossiers-là et à vous les présenter.
Oui, en fait, on accompagne les groupes. Il faut se souvenir, c'est toujours des démarches collectives et on accompagne les groupes d'entreprises qui réfléchissent à l'opportunité d'encadrer la dénomination de leurs produits par une appellation réservée. C'est sûr qu'il y a un programme aussi, il y a du soutien du ministère de l'Agriculture, mais je dirais qu'on travaille en complémentarité. Bien, on sait que dans l'érable, il y a eu beaucoup d'encouragement pour avoir des appellations réservées dans le secteur de l'érable et je sais qu'ils cheminent. Ils sont en train vraiment d'évaluer l'opportunité d'avoir une appellation réservée pour le sirop d'érable ou des appellations réservées pour les sirops d'érable, faudrait voir, là. Mais ils ont aussi une démarche dans le secteur des alcools d'érable. C'est intéressant. On sait qu'il y a des projets aussi dans les produits de la mer, donc l'anguille, l'esturgeon, pour les produits fumés, les produits de la mer fumés aussi. Et on a entendu parler vaguement de réflexions aussi qui se faisaient dans les Bleuets. Il faudra voir comment ça va évoluer.
Il y a quelques instants, Anne-Marie Granger-Godbout a parlé brièvement du dossier du maïs de Neuville. Ce dossier en est à ses toutes dernières étapes. Madame Granger-Godbout, spécifiquement en ce qui concerne le maïs de Neuville, petite pause dans le dossier actuellement, vous amorcez un genre de dernière consultation là, avant de finaliser le dossier.
En fait, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a des choses qui ont été probablement prises pour acquis ou implicites. Comme par exemple, vous avez mentionné maïs de Neuville, mais l'appellation dont la réservation a été demandée, c'est maïs sucré de Neuville. Sauf qu'il y a des choses qui ont été probablement prises de façon implicite, un peu prises pour acquis. C'est que, par exemple, blé d'Inde de Neuville et maïs de Neuville et maïs sucré de Neuville, c'était des équivalents. Ça transparaît tout au long de la démarche du groupe de producteurs, dans le cahier de charge, à de recommandations au ministre. Là, à ce moment-là, évidemment, on s'attendait à faire reconnaître les déclinaisons. Là, à l'étape où on est rendu, c'est peut-être de valider ou d'étoffer davantage la pertinence de réserver également les synonymes. Donc, blé d'Inde de Neuville par rapport à maïs sucré de Neuville. Alors, il y a des choses qui ont été prises comme implicites.
Et tout ça dans l'optique d'éviter que la réglementation, la loi soit une passoire. Une appellation doit véritablement protéger le produit que l'on vise.
Oui, exactement. En fait, il faut que le consommateur, quand il choisit ce produit-là avec une appellation réservée, il faut dans le fond qu'il soit rassuré sur le fait que c'est bien le produit qu'on lui promet. S'il y a des variantes qui sont trop proches de l'appellation réservée, à ce moment-là, lui, dans sa compréhension, il va peut-être y avoir confusion. Et il faut vraiment s'assurer que l'appellation décrit bien le produit. Il faut s'assurer que le consommateur se sent protégé aussi. Alors, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en Europe, la réglementation, elle est réfléchie comme ça, elle est conçue comme ça pour protéger de façon large. Je donne un exemple, si on avait un homonyme ou une façon différente d'écrire le même mot avec un orthographe différent, le consommateur, il faut qu'il soit capable d'être rassuré sur le fait que s'il achète un produit, c'est vraiment celui qu'il pense acheter, finalement.
Et ainsi, on aura atteint l'objectif précis d'une appellation.
Exact. Parce que si, comme vous le disiez tantôt, si l'appellation est une passoire parce qu'il y a toutes sortes de façons de passer un petit peu à côté sans respecter les critères, à ce moment-là, bien, c'est l'opportunité pour les producteurs qui va être effritée. Il n'y a pas d'intérêt pour les producteurs d'être certifiés, de respecter les règles du jeu. Puis il y a des coûts, il y a des contraintes à la production d'un produit qui respecte un cahier de charges. Il n'y aura pas d'incitatif pour les producteurs si, dans le fond, les compétiteurs peuvent utiliser une appellation semblable puis que le consommateur ne fait pas la différence.
Donc, une dernière étape, on révise tout ça et ensuite le projet est soumis au ministre.
En fait, on documente davantage la recommandation qu'on a déjà adressée. C'est-à-dire, on va documenter davantage, étoffer davantage le fait que pour le consommateur, le blé d'Inde de Neuville et maïs sucré de Neuville, c'est assez proche dans sa compréhension pour amener une confusion. Et donc, que c'est pertinent de réserver les variantes de l'appellation réservée.
Bien, Mme Granger-Godbout, bon anniversaire pour le CAR TV et bonne chance pour la suite.
Merci.
Ici Lionel Levac. Le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants mène actuellement plusieurs dossiers de front. Fromage fermier, cheddar de l'île aux grues, sirop d'érable, boisson à l'érable et quelques autres. Qu'à cela ne tienne, au CAR TV, on souhaite voir des groupes s'organiser pour aussi demander la reconnaissance de produits spécifiques. À bientôt.